chers collègues, chers responsables associatifs, Monsieur le Président, je me joins aux collègues, je suis heureux de cette invitation. Et je suis tellement heureux, Monsieur le Président de la République, que je vais vous offrir un livre. Il est un peu gros. Il vient de sortir. Ça s'appelle Les Abandonnés. Donc je vous l'offre. Ce livre, travail d'enquête journalistique, dit rapidement deux choses. La première, la République française a une dette vis-à-vis des quartiers populaires. Nous ne demandons pas charité, mais justice. Et il dit autre chose que sur laquelle nous sommes tous d'accord ici. C'est qu'il y a une profonde rupture d'égalité républicaine dans les quartiers populaires.
Dans l'actualité des idées aujourd'hui, banlieue française, pourquoi répète-t-il toujours les mêmes échecs et les mêmes erreurs ? Histoire d'ailleurs d'un échec avec le journaliste à Télérama Xavier de Jarcy, auteur précédemment de Le Corbusier, un fascisme français, c'était en 2015. Il publie aujourd'hui, toujours chez Albin Michel, Les Abandonnés, où il retrace l'histoire du malaise urbain et de la crise du logement dans les banlieues, où il reconstitue la jeunesse des quartiers en donnant la parole à tous les acteurs de ces 40-50 dernières années et en épluchant aussi des milliers de pages aux archives. Nationale. Son livre est maintenant entre les mains d'Emmanuel Macron. La semaine dernière, lors d'une rencontre dans l'Essonne, dans le cadre du grand débat national, Philippe Riault, le maire communiste de Grigny, lui a remis, en insistant sur la dette que la République française a vis-à-vis des quartiers et sur cette rupture d'égalité entre les territoires. Bonjour Xavier de Jarcy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, est-ce qu'il l'a lu ? Ça, c'est une autre affaire. Qui apprendrait-il pour vous, en lisant votre livre, Emmanuel Macron ? Qu'apprendrait-il qu'il ne sait déjà ?
Ah, il apprendrait que la crise du logement, dont le problème de banlieue n'est qu'un petit aspect, est très profonde et très ancienne. Elle a un bon siècle. Et les gouvernements successifs n'en ont jamais vraiment eu conscience. Hein. Je pense qu'il faut le dire. Ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers sensibles, les cités, qu'on appelait autrefois les grands ensembles... n'ont pas répondu à cette crise, alors qu'il y avait une explosion démographique dans le pays. La France avait le taux de natalité, d'ailleurs elle a toujours un des taux de natalité les plus élevés d'Europe. On n'a pas mis les moyens, on n'a pas construit des villes, et on en paye aujourd'hui le prix. Et si on prend par exemple l'exemple de Grigny, moi, ce que j'ai constaté en enquêtant et en fouillant donc ces milliers d'archives, c'est que c'est un problème là aussi qui est très ancien, puisque c'est une petite ville de l'Essonne qui avait 3000 habitants à l'époque, à laquelle l'État a imposé deux grands ensembles, une cité HLM, donc la Grande Borne, et puis un grand ensemble privé qui s'appelle Grigny 2. Donc cette ville est passée de 3000 à 30 000 habitants quelques années, sans jamais avoir les moyens de faire face. Elle est en faillite dès 1971. Et depuis 1971, elle a toujours des problèmes budgétaires. Donc, ça se voyait très clairement à l'époque, et Grigny n'est pas seul dans ce cas-là. C'est la même chose à Chanteloup-les-Vignes, où... De la même manière, l'État a imposé une cité à un village de 2000 habitants dans des conditions catastrophiques, en toute illégalité, et c'est une ville qui ne s'en sort toujours pas.
Alors c'est cette histoire que vous nous racontez dans cet essai enquête, Les Abandonnés, histoire des cités de banlieue, Xavier de Jarcy. Ce que nous avons à apprendre à vous lire, c'est cette histoire française méconnue, celle déjà de la naissance des quartiers sensibles, fruit d'une utopie égalitariste, née d'une demande de logement toujours plus importante après-guerre et de logement décent pour résorber les bidonvilles. Sauf que, racontez-vous, on n'a jamais su penser la vie dans ces grands ensembles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est une histoire qui est empreinte d'idéologie. Il y en a eu des visionnaires qu'on perçoive, qu'on apprécie ou pas l'idéologie qui a pu les guider dans ces constructions. Mais ça a été pensé, mais toujours mal pensé. Comment ça a commencé, cette histoire ? Vous dites bien avant la guerre.
Oui, mais alors je ne suis pas d'accord avec l'idée d'utopie égalitariste. C'est plutôt... l'utopie, si l'on peut dire, de l'hygiénisme social. C'est-à-dire que il faut remettre la France en ordre et il faut discipliner ses habitants, créer un homme nouveau, une femme nouvelle, voire une race nouvelle, puisque c'est la terminologie de l'époque. Ça, ça commence dans les années 20, notamment avec des architectes comme Le Corbusier, mais aussi avec Henri Sellier, le maire de Suresnes. Et c'est une idéologie qui est totalement confirmée par le régime de Vichy, qui en 1943 met en place la première grande loi d'urbanisme, signée Pierre Laval, il faut quand même le rappeler. Une loi qui étatise la politique d'urbanisme et de construction. Cette loi va être confirmée en 1945. Et alors ce qui est très important, c'est que pourquoi est-ce que le régime de Vichy s'intéresse autant à l'urbanisme et au logement? Pour cette raison-là, c'est qu'il faut créer une communauté nouvelle dans laquelle le citoyen disparaît, puisque le régime de Vichy ne connaît pas l'idée d'individu. C'est forcément, on appartient forcément à un groupe, à une communauté, c'est-à-dire une communauté religieuse, une communauté de travail ou une communauté nationale. Donc on met en place une collectivisation du logement, tout simplement, et de la construction, qui sera tout à fait reprise à partir de 1945, sans grande discussion, ce qui m'a beaucoup étonné. Je pensais qu'il y avait eu des débats là-dessus, mais finalement, pas tellement.
On peut prendre l'exemple de Suresnes, et après on parlera de Le Corbusier et de la Cité radieuse. Si on prend l'exemple de Suresnes et de son maire, Henri Sellier, que vous venez de citer, Xavier Jarcy, qu'est-ce qu'il veut faire de sa ville? Vous dites une biocratie municipale. À quoi ça ressemblait, ce projet idéal qu'il en avait?
Henri Sellier, il constatait qu'il y avait une mortalité très importante en banlieue. Ça, il faut reconnaître ça. C'est-à-dire que par rapport aux banlieues de Londres, par exemple, la banlieue parisienne était déjà dans un état déplorable, puisque il y avait un exode rural très important. Les gens n'arrivaient pas à se loger. Ils construisaient des cabanes un peu n'importe comment, ou alors des lotissements sans aucun assainissement. Donc Henri Sellier dit il faut...
Il veut assainir quelque part.
Il veut assainir, donc il met en place un système de contrôle des logements, immeuble par immeuble, avec un réseau d'assistance sociale qui surveille la population. Enfin, c'est très très rigoriste, si l'on peut dire. Et il obtient certains résultats, et il faut le reconnaître. Il construit des cités-jardins. Par exemple, à Suresnes, c'est un des plus beaux exemples. Une cité-jardin qui est assez réussie, puisque vous avez un mélange de petits immeubles, d'espaces verts, vous avez un théâtre, vous avez une église, vous avez beaucoup d'équipements. Mais à partir de la crise des années 30, Henri Sellier s'aperçoit que les cités-jardins, ça coûte cher. Donc il change de modèle. Et il passe à ce qu'on appelle le grand ensemble, qui est une appellation qui est utilisée pour la première fois à ce moment-là à propos de la cité de la Muette à Drancy. Donc là, c'est un ensemble préfabriqué, rationalisé, géométrique, qui est censé coûter beaucoup moins cher, mais qui ne plaît pas. C'est-à-dire que les loyers sont trop élevés, malgré la diminution des coûts. Et les ouvriers n'ont pas envie d'habiter dans des tours. Ils préfèrent leur petit pavillon. Donc c'est un échec. La cité n'est même pas terminée, elle n'est pas habitée, elle est abandonnée. Et la seule solution qu'on trouve, c'est d'y mettre une caserne, à transformer en caserne de gendarmes mobiles. Puis elle connaîtra un destin tragique, puisque ça deviendra un camp de regroupement des juifs qui vont être arrêtés par les Allemands et regroupés là sous contrôle de la police française et envoyés à Auschwitz.
Alors, il y a tous ces principes qui ont donc conduit cette construction, ces constructions d'avant-guerre, et vous nous dites dans votre enquête, essai Xavier de Jarcy, que ces principes, ces idées, cette idéologie a aussi perduré après-guerre. De cet hygiénisme social a aussi guidé les constructions de ces grands ensembles qui ont pu être mis en place après la guerre, donc dans une France en ruine, où il y avait un besoin de logement et de reconstruction qui était évident. Je vous donne un autre exemple, celui de la Cité radieuse, inauguration, on est à l'été 1952.
À Marseille, le vieux port va-t-il être rebaptisé le port neuf? Partout, des immeubles surgissent et, dominant la ville, le plus grand et le plus extraordinaire est la cité radieuse que le ministre de la Reconstruction a inaugurée cette semaine. Cet immobile paquebot de pierre comprend 347 appartements pourvus du confort le plus moderne, dont beaucoup sont déjà habités. Et c'est sur la terrasse que son créateur, l'architecte Le Corbusier, a reçu des mains de M. Claudius Petit la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. La cité radieuse est née.
L'évangile de l'urbanisme. Vous nous en parlez dans cet ouvrage, Xavier de Jarcy, sous l'influence de Le Corbusier. Il y avait une idée à ce moment-là, rebâtir la France, c'est, et vous le racontez, établir la règle nouvelle dont doivent découler toutes les normes de notre société. Et cette idée, elle a été aussi inspirée de cet évangile moderne par Le Corbusier. Alors en quoi, quel est le principe mis en œuvre dans ces constructions ?
Alors la cité radieuse, c'est un cas particulier parce que ça n'est pas du tout du logement social, contrairement à ce qu'on pense. C'est du logement de luxe qui a coûté très cher à l'État, qui a fini par revendre les appartements en copropriété. Ce qui fait que c'est un modèle formel, parce que les architectes vont copier le principe de la grande barre, mais on peut pas dire qu'au niveau du logement social, ce soit une réussite. Le principe, c'est effectivement de construire des grandes barres de logement sur des espaces vides, de grands espaces verts. Puisqu'il faut séparer l'habitation de la rue, hein, ce sont les principes énoncés par la charte d'Athènes publiée par Le Corbusier, une fois encore en 1943, il faut le rappeler. Donc c'est une logique fonctionnaliste. On divise la ville en quatre fonctions principales, travailler, circuler, se loger, cultiver le corps et l'esprit. Et c'est terminé, ça permet de construire des villes de façon très simple, très répétitive. Et c'est ce qui va être imposé par Claudius Petit, ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, à partir de 1948. Puisque grâce à la loi de 1943, l'État peut imposer ses urbanistes et ses architectes.
Mais alors où est l'échec là pour vous ? Parce qu'ils avaient tous quand même pour idée de sortir, par exemple, les hommes des bars et des cafés, de créer des espaces où on pourrait avancer. Mais quel est l'échec typiquement dans ce projet ?
L'échec, c'est que ça a coûté très cher. C'était pas du tout conçu pour être du logement social.
Donc, là, vous parlez de la cité radieuse, surtout.
Ouais. Et donc Le Corbusier a construit quelques bars similaires, mais quand il s'agissait de faire vraiment du logement social, il a été obligé de simplifier la construction et ça n'a pas donné de bons résultats. Il faut reconnaître à sa décharge que c'était un problème général, puisque dans ce système étatisé, c'est l'État qui fixait le prix de la construction des logements sociaux, le prix et les normes. Ces prix étaient toujours trop bas, notamment quand il y avait des périodes d'inflation, ce qui fait qu'on a construit de plus en plus mal et de plus en plus petit. On s'est retrouvé au début des années 60 avec des logements neufs qui étaient les plus petits d'Europe, alors que une fois de plus, la natalité était très importante et qu'il aurait fallu construire de grands logements.
L'urbanisme, vous la racontez comme une science expérimentale pour tous ces messieurs qui, à un moment, ont eu à concevoir aussi ces grands ensembles, à créer du logement, parce qu'une fois encore, on le rappelle, après la guerre, et c'était le leitmotiv, ou presque la devise à l'époque, il fallait construire, 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 quel qu'en soit le coût. Beaucoup ont donc tenté, ont fait ces expériences. Paris et le désert français, c'est un ouvrage de François Gravier, que vous citez. Faute de main-d'œuvre, le pays tourne au ralenti. Cet homme va donc proposer d'investir dans le capital humain via le versement d'allocations familiales et soumettre aussi la totalité de la vie humaine à la logique de production. Alors on va écouter un extrait du film qui est une adaptation de cet essai, film de 1957.
Voici le nouveau groupe scolaire Daniel Rock. En enseignant à leurs élèves principes et techniques, les maîtres aimeraient former la future élite de la ville et de la région. Mais des 20 élèves du cours complémentaire, 6 veulent être instituteurs. 4 préparent le concours des PTT, 2 celui de la SNCF. 8 seulement feront carrière dans leur pays. Les 2/3 de ces garçons seront des exilés. Le destin d'une ville se mesure à l'avenir de sa jeunesse. Pour échapper à l'ennui du café de province, garçons et filles n'ont ici d'autre projet, ni d'autre rêve, que le mythe de Paris.
Les villes attirent à cette période-là et les campagnes se désertifient aussi. Alors, qu'est-ce qui va être pensé par François Gravier et à quoi ça va donner lieu ?
Alors, Jean-François Gravier est un géographe. Il change de nom. À une époque, il s'appelle François Gravier. Et puis, après la guerre, il change de prénom, curieusement. C'est un jeune géographe qui est un homme, un militant d'extrême droite. Il faut dire les choses comme elles sont. Très actif sous le régime de Vichy. Et qui publie un livre en 1947 qui s'appelle « Paris et le désert français ». Dans lequel il explique que Paris est responsable de tous les maux du pays, puisque c'est une sorte de pieuvre, de parasite, qui absorbe les richesses économiques et intellectuelles de la province. Il faut donc bloquer la croissance de la région parisienne et entreprendre une politique d'aménagement du territoire, notamment en déplaçant les industries de la banlieue parisienne dans les provinces reculées. Je peux employer le mot province puisque à l'époque on l'emploie couramment. Donc c'est une attaque contre la ville, une attaque contre Paris, totalement injustifiée quand on regarde la réalité, puisque toutes les grandes villes du monde se développent à l'époque et Paris est une ville qui rapporte au pays plus qu'il ne lui coûte. Mais dans cet état d'esprit de confusion intellectuelle qui caractérise l'après-guerre, les responsables politiques vont s'emparer de ce livre et vont essayer effectivement de bloquer la croissance de la région parisienne, ce qui va avoir des conséquences catastrophiques jusqu'au milieu des années 60. Et il faudra un certain Paul de Louvrier, qui est à ce moment-là délégué général du district de la région parisienne, c'est-à-dire l'ancêtre de la région Île-de-France, s'aperçoive que Jean-François Gravier dit un petit peu n'importe quoi et qu'au contraire, il faut accélérer l'urbanisation de la banlieue. Il faut donc augmenter le volume de construction, construire en urgence le périphérique, le RER. C'est une des raisons de l'échec de certains quartiers, parce qu'en fait, on va aller très très vite, on va faire ça n'importe comment.
70 ans, il en reste quoi de l'esprit, de cette philosophie de François Gravier?
Mais il semble que malheureusement, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup d'influence, parce qu'on continue à propager ce mythe de la grande ville qui tue les campagnes. Si vous écoutez les Gilets jaunes, ça s'entend. Hein. Alors que la France est un pays largement urbain, urbanisé maintenant. Hein. Mais simplement, il s'agit d'en prendre conscience. et de faire en sorte que cette urbanisation se passe bien, parce qu'elle est inéluctable.
Et qu'elle profite à tous.
Voilà.
Ségrégation, le mot surgit au détour des années 50, une ségrégation spatiale et sociale, produit de l'urbanisme français d'après-guerre, centraliste et dirigiste à souhait. On retrouve ces mots d'ailleurs aujourd'hui. Je voudrais qu'on prenne un dernier exemple des politiques qui ont pu être mises en place avec vous, pour bien comprendre, Xavier Jarcy, avant d'en venir aussi un peu à aujourd'hui, dans cette lente construction, ce qu'était la grille du pont. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Ah oui, alors la grille du pont, c'est quelque chose qui intervient à la fin des années 50 et début des années 60, qui est mise au point par un fonctionnaire du ministère de la Construction, et qui établit une liste d'équipements en fonction de la taille des grands ensembles. Donc pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Parce qu'on construit des ensembles de logements sans se préoccuper de leur équipement. Quand on parle du service public à la française, on s'aperçoit, en regardant les archives, que, en ce qui concerne les nouveaux quartiers, c'était largement un mythe. Parfois, il n'y avait pas d'école, ou alors le seul équipement public, c'était l'école. Il n'y avait pas de téléphone. Si vous vouliez une gare, il fallait que le constructeur du quartier verse une participation à la SNCF. Si vous vouliez un bureau de poste, c'était la même chose, et ainsi de suite.
En fait, la grille du pont, c'était des seuils qui avaient été établis à partir duquel ou desquels tel ou tel équipement pourrait figurer dans une ville.
Devait figurer, parce qu'il n'y était pas. Donc c'était un moyen de corriger les erreurs et de rattraper le temps perdu.
Sauf que
Ça
n'a pas construit les cités idéales ?
Non, parce qu'il y avait un autre problème qui s'est greffé là-dessus, c'est la spéculation foncière, qui n'était pas du tout régulée. Il y a eu quelques lois qui ont essayé de la bloquer, mais elles n'ont pas été très efficaces. Ce qui fait que, comme le prix des terrains augmentait, il fallait compenser l'argent qu'on dépensait là, on ne pouvait pas le dépenser ailleurs. Donc on économisait sur la qualité de la construction, on économisait sur les équipements, et on augmentait la densité des nouveaux quartiers.
En quoi la cité des 4000 à la Courneuve est emblématique aujourd'hui ?
La cité des 4000, alors il n'en reste plus grand-chose, puisque une grande partie a été démolie dès les années 80, je crois, au début des années 90.
Qu'est-ce qu'elle raconte de ce tournant des années 60-70 ?
C'est un projet c'est un projet gigantesque, qui a été très mal construit. La qualité de la construction était très mauvaise. C'est un projet qui dépendait qui a été mis en œuvre par l'office d'HLM de la ville de Paris, qui n'avait pas d'argent, qui était dans une situation désastreuse dès le début des années 60. Et qui s'est trouvé pris entre la municipalité de la Courneuve, qui était demandeuse de logements sociaux, et la ville de Paris, qui a refusé de financer les écoles. Là, j'ai retrouvé la décision du conseil municipal de Paris qui dit « Eh bien non, on ne financera pas les écoles de la Courneuve », ce qui est quand même terrible.
Pourquoi ? Elle était motivée comment, cette décision ?
C'est à l'État de s'en occuper.
D'accord.
Et comme l'État ne s'en occupait pas, c'est la commune qui a financé en grande partie les écoles et qui s'est endettée. Et c'était le cas dans beaucoup de municipalités. Il y a des villes qui se sont endettées sur des années parce que l'État ne construisait pas les écoles. Donc c'est un quartier qui est très dense et très vite, ça se passe mal. Il y a des problèmes de violence qui surgissent. On promet des commissariats qui n'arrivent jamais parce que c'est toujours le même problème. L'État dit c'est à la commune de financer le commissariat et la commune refuse. Donc pas de commissariat. Et en 1971, il y a un meurtre. C'est, je pense, l'un des premiers meurtres répertoriés dans les nouveaux quartiers. C'est un cafetier qui tire sur un jeune, qui fait un peu de chahut dans son café. Pour une fois qu'il y avait un café dans un grand ensemble, c'est vraiment pas de chance. Ce meurtre émeut les journalistes qui se rendent les uns après les autres à la Courneuve, à la cité des 4000, qui décrivent une situation assez terrible. C'est suffi d'une manifestation, d'une émeute de 500 jeunes qui s'en prennent aux forces de l'ordre, avec tirs de grenades lacrymogènes. On est en 71, hein. Donc, c'est pas des choses qui sont nouvelles. Le cafetier se fait plastiquer son établissement. Enfin, il y a une espèce de violence qui commence à monter comme ça, dans la banlieue parisienne, et qu'on constate à ce moment-là.
France Culture avec notre invité, le journaliste Xavier de Jarcy, auteur de « Les Abandonnés, une histoire des cités de banlieue ». Ça vient de paraître chez Albin Michel et on a vu récemment le maire communiste de Grigny, Philippe Riault, le remettre entre les mains d'Emmanuel Macron en lui disant de prendre connaissance du résultat de cette enquête pour comprendre peut-être la rupture d'égalité qui se joue aujourd'hui. France Culture, il est 13h22.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Dans les années 70, le petit pavillon reprend des couleurs. Le gouvernement affiche sa volonté de réduire les inégalités et d'humaniser les villes. Et tout, écoutez cette voix que vous reconnaîtrez assurément.
Eh bien d'abord, il faut que les grands ensembles deviennent des petits ensembles. Ceci n'est pas absolument un problème de ségrégation, c'est un problème d'intégration de ces ensembles dans une vie urbaine qui doit se caractériser par la diversité. Ce qui fait le charme d'une ville, c'est la diversité. Donc je souhaite qu'il y ait de petits ensembles et je demande qu'on ne dépasse pas 500 logements pour apporter cette espèce de variété. Et puis ensuite, je souhaite qu'à l'intérieur de ces ensembles, on répartisse les logements aidés de manière à ce qu'il n'y ait pas de grands ensembles entièrement en HLM locatif et d'autres où il n'y en ait pas du tout. Il faut un mélange des deux, sinon on aboutira en effet à une ségrégation sociale et après tout la construction, l'habitat, c'est pas fait pour ça.
Mars 1973, Georges Pompidou, à l'entendre, l'État reconnaît ses erreurs, se dit qu'il doit réparer et mettre fin à cette ségrégation que l'urbanisme de ces quartiers a causée. Alors comment va-t-il s'y prendre et pourquoi là encore ce sera, à vos yeux, Xavier de Jarcy, un échec ?
Il s'y prend pas très bien. En fait, c'est Olivier Guichard, ministre de l'équipement de l'époque, qui met fin aux grands ensembles, qui constate l'échec en mars 1973. Mais déjà, son prédécesseur Albin Chalandon, en 1970, avait commencé à dire que les Français ne se plaisaient pas dans les nouveaux quartiers, qu'ils n'y étaient pas heureux, et que la solution miracle, c'était le quartier pavillonnaire. On va donc construire des lotissements, des maisons individuelles. Et ça va avoir pour conséquence que les classes moyennes vont choisir d'habiter plutôt dans les pavillons que dans les grands immeubles. Elles vont donc s'en aller et ça va coïncider avec la nouvelle politique du gouvernement qui est de réserver les logements sociaux aux plus défavorisés. Alors que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là, le mouvement HLM se battait pour avoir des peuplements équilibrés. C'est-à-dire pas simplement, justement, qu'on ne fasse pas des ghettos de ces quartiers. Donc, double mouvement. On va réserver les HLM aux plus défavorisés et les classes moyennes vont s'en aller. Et bon, je pense que la suite, on la connaît un petit peu.
Comment sortir de cette spirale de l'échec que vous nous racontez à travers cette longue enquête ? Le dernier traumatisme en date, c'est que, à peine rendu public, le plan Borloo a été enterré. Plan Borloo pour les banlieues, c'était en mai 2018. La réponse d'Emmanuel Macron au plan Borloo a été simple, pas de plan banlieue. Une méthode, selon lui, qui ne marche plus.
Cette égalité des chances, c'est de faire que partout, dans tous les lieux de la République, nos concitoyens retrouvent leur dignité. Les parents, les enfants, les adultes, c'est-à-dire retrouvent ce à quoi ils ont droit dans la République. Une politique d'émancipation, c'est que chacun puisse aller vers ce à quoi il aspire et qu'il n'y ait plus cette assignation à résidence sociale ou territoriale qui fait que quand on est né à un endroit ou quand on a eu un accident de la vie à un endroit, il est plus possible de s'en sortir. Et cette philosophie d'action, elle nous conduit à changer de méthode. Et donc, c'est vrai que c'est ce qui me conduit à vous dire, je vais pas vous faire un plan parce que, puis quelque part, ça n'aurait aucun sens que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant, on m'a remis un plan, je l'ai découvert. C'est pas vrai, ça marche plus comme ça. Les gens qui y vivent, qui font parfois depuis des décennies, ce sont des acteurs de ces sujets. Ils ont envie de faire. Ils ont une bonne partie des solutions. Elles ne sont parfois pas reconnues. Elles ont besoin qu'on les facilite, qu'on accélère. Elles ont besoin qu'on leur donne un statut. Elles ont besoin qu'on les porte, qu'on leur donne du sens. Elles ont besoin qu'on les aide à réussir. C'est ça la République.
On se souvient de cette déclaration d'Emmanuel Macron avec ces mots qui ont choqué les deux mâles blancs. Il parlait de lui et de Jean-Louis Borloo, ancien ministre de la Ville, en charge de cette concertation et de ce plan. Dans la suite de cette allocution, il défend Emmanuel Macron une politique d'émancipation qu'il entend construire. Est-ce qu'à vos yeux, aujourd'hui, Xavier Djarcy, il faut en repasser par un plan banlieue? Est-ce que c'est ça la solution? Et est-ce que le plan Borloo ouvrait cette voie-là?
Je pense qu'il y a deux choses. D'une part, il faut constater qu'effectivement une rupture du principe de l'égalité dans certains quartiers où les gens ont moins d'écoles, moins de services publics qu'ailleurs. Il y a eu un rapport sur la Seine-Saint-Denis qui est paru il y a quelques mois qui le dit clairement. Donc au moins qu'on construise des écoles, construise des équipements sociaux.
Et vous le dites, le retard en équipement qui a été constaté dans les années 50 n'a jamais été rattrapé.
Tout à fait. Ouais. C'est d'autant plus important que la politique de peuplement mise en œuvre depuis les années 50 réserve ces quartiers aux familles nombreuses avec enfants. On se retrouve donc dans des quartiers où la moitié de la population sont des enfants.
Et il manque de tout. Il manque des enseignants, des services médicaux, des bibliothèques, des transports. C'est tout ça qu'il faudrait aussi désenclaver. La deuxième chose, vous disiez, le deuxième point, si vous ne l'avez pas perdu.
Je crois que
sur la question du plan.
Perdu. Non, mais c'est ça. Non, mais le problème, c'est que là où Emmanuel Macron a un peu raison, c'est qu'on peut plus continuer à raisonner par quartier sensible, simplement. C'est un problème plus global d'urbanisation et de logement. Je crois que il faut que la France entre dans la civilisation urbaine, se rendre compte qu'elle est un grand pays urbanisé et qu'elle y mette les moyens. Mais il ne faut pas que ça se fasse d'en haut comme ça s'est fait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu aussi demander leur avis aux habitants. Je pense que c'est pas moi qui vais dire aujourd'hui quelle solution il faut mettre en œuvre. Il faut demander aux gens. Dans quelle ville ils veulent vivre.
Et vous terminez là-dessus, cette idée d'une cité nouvelle. Peut-être est-il encore temps de se souvenir des espoirs de 1945, d'où l'importance de relire aussi cette histoire, pas simplement pour voir ce qui a échoué, mais aussi pour comprendre quels étaient les espoirs portés au lendemain de la guerre, et de construire une cité qui serait débattue, pensée par les citoyens, les acteurs, ceux qui y vivent, et non dessinée par l'administration ou les promoteurs immobiliers. Un grand merci à vous, Xavier de Djarcy. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un essai. C'est Enquête qui vient de paraître chez Albin Michel, Les Abandonnés, histoire des cités de banlieue. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Auriane Delacroix avec Henri Leblanc pour La Grande Table culture. Merci à Mathilde Tonfourcade et Antoine Suzarelli pour leur aide très précieuse à la réalisation aujourd'hui. C'était Marie Placet avec Jean Frédérix.